Bonsoir à tous. J'aimerais commencer sans tarder en prenant trois textes. Vous allez être surpris des trois textes, mais je voulais montrer l'importance de cette parole que Jésus nous a laissée. Le premier des trois textes se trouve dans Matthieu, au chapitre 10 et au verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Le suivant, Marc, chapitre 4, verset 22. Nous retrouvons là la même parole. Mais on va les lire à chaque fois. Marc, chapitre 4, verset 22. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. On peut lire juste le verset qui suit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Luc, lui, va encore plus loin parce qu'il cite deux fois cette parole. Luc, au chapitre 8 et au verset 17, il la cite, Jésus la prononce dans le cadre du témoignage de celui qui appartient au Seigneur, qui ne doit pas avoir honte de lui, et il le redit. On peut le lire à partir du verset 16. « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière, car il n'est rien de caché, qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Luc, chapitre 12, verset 2. Il est question des pharisiens qui sont hypocrites et qui, eux, cachent des choses. Eux cachent des choses. Ils se font paraître pour plus blancs qu'ils ne sont. Ils ont invité Jésus à un repas. Ce n'était pas un repas, c'était un traquenard. Ils ont essayé de l'avoir, essayé de l'attraper sur toutes ses paroles. Et au verset premier, on lit, c'est assez impressionnant ce verset, « Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. » Ces versets, Jésus se mit à dire à ses disciples, donc en aparté quand même, alors qu'il y a la foule, il est bousculé, etc. « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Je me suis interrogé pourquoi Dieu a voulu que cette parole soit aussi souvent dans les évangiles. Il n'y a rien qu'on ne puisse garder secret. On ne peut rien cacher à Dieu. Et si on ne dévoile pas à Dieu ces choses-là cachées de notre vivant, Dieu nous avertit qu'un jour, elles seront dévoilées au plus grand nombre. Et je me suis intéressé à un cas, on va le traiter tout à l'heure, pour lequel il a essayé de cacher à Dieu des choses et mal lui en a pris. Et j'aimerais que ce soir, on puisse ouvrir les yeux. N'y voyez pas ce message d'une sévérité immense, parce que c'est la juste réalité que celui qui cache des choses à Dieu, d'ailleurs, il ne les cache pas parce qu'il croit qu'il les cache. Mais à Dieu, on ne peut rien cacher. Mais celui qui a cette attitude, un jour, devra rendre compte au Seigneur. Et en passant devant lui, tous verront ce qui a été caché. Tous verront ce qui a voulu être dissimulé. Et je crois qu'il est de notre intérêt de comprendre ces choses-là maintenant, de manière à faire le point avec Dieu pour qu'on n'ait pas un jour à vivre une situation beaucoup plus désagréable une fois qu'on sera dans le ciel. Alors maintenant, je vous emmène dans le livre de Josué. Et on va lire une histoire tragique. Et pour autant, vous allez vous en rendre compte au fil et à mesure de cette prédication, ce message n'est pas que sévère. Et cette histoire n'est pas que sévère, si on la lit du bon côté. Josué, chapitre 7. Josué est en pleine campagne. Il a permis aux murailles de Jéricho de tomber. Et un jour, un homme est allé chercher dans le butin, il a pris des choses, il les a planquées dans sa tente, et il a permis qu'il y ait un interdit dans Israël, parce que ce qu'il a gardé pour lui, il devait le consacrer à Dieu. Et ça, ça déplaisait à Dieu, et on voit que c'est un obstacle à la prière, pour faire la transition avec le message précédent mardi dernier. D'un point de vue de ceux qui appartiennent au Seigneur, ça fait partie des choses qui nous démontrent que quand on dissimule des choses, quand il y a du péché, quand il y a un interdit dans notre vie, des fois on peut demander à Dieu sa grâce, on peut prier, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet interdit qui est là et qui bloque tout. Ce n'est pas sur cet angle-là qu'on va voir cette histoire, mais on va la lire. Chapitre 7, verset 10. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restais-tu ainsi couché sur ton visage ? » Eh oui, il a subi une défaite terrible parce qu'il y a cet interdit. Il pensait avoir la victoire, il ne l'a pas eue. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont tous... Ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Et on voit d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de détruire une personne, il s'agit de détruire l'interdit. C'est ce qui fait blocage qu'il faut détruire, pas les gens. Et Dieu n'a jamais voulu détruire les gens. Dieu aime les hommes plus que toute autre chose. Dieu a un amour éternel. Effectivement, il s'aime lui-même d'abord. Mais Dieu aime l'homme, et il a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu n'a rien contre les hommes, et il n'avait rien contre cette famille. On va continuer. Verset 13. « Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. » Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. On voit l'amour de Dieu déjà là, il décrit ce qui va se passer. Il prépare le peuple. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérakh fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérakh par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérakh, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et il dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin beau manteau de Shinéar 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérakh, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida, et on éleva sur Akan un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné à ce jour, à ce lieu, le nom de la vallée d'Akor. C'est une triste histoire, c'est tragique, ça fait même froid dans le dos. Quand on voit les conséquences, et J'aimerais vous éviter de vivre ce genre d'histoire un jour. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. On va voir que dans cette histoire, malgré tout, Dieu ne voulait pas détruire Achan et sa famille. Parce qu'il y a quelque chose de très important. Premièrement, est-ce que vous avez regardé le verset 13? On l'a lu, on va le relire. « Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. » Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Dieu annonce clairement la couleur. Il dit ce qui va se passer. Il annonce ce qui va se passer la veille, au soir. Et là, il y a un chronomètre qui démarre et qui prendra fin au moment où le jugement aura lieu. Et pendant ce court laps de temps, Achan et sa famille a tout le loisir de réfléchir à ce qui va se passer. Achan et sa famille vont avoir tout le loisir de gamberger, à mon avis. Achan et sa famille n'ont pas dû beaucoup dormir cette nuit-là, sachant ce qui allait arriver le lendemain. Néanmoins, ils ont eu du temps pour réfléchir à leur action. Ils ont bien compris que ce que Dieu voulait ôter, c'était l'interdit. Ce que Dieu voulait ôter, c'était ce qu'ils avaient, le péché qui était là. Parce que de quoi il s'agit? Ce que je cache, c'est le péché. Dans cette histoire-là, il y a l'image de quelque chose qu'on cherche à cacher, ce sont nos péchés. Est-ce que vous avez réfléchi à la raison pour laquelle Dieu avait retardé ce jugement? Il aurait pu les juger de suite. Pourquoi Dieu dit, on verra ça demain? C'est quand même curieux. Pourquoi Dieu a retardé son jugement? C'est la patience de Dieu, vous ne croyez pas? Et pourquoi Dieu est patient? Parce qu'il veut faire grâce. La procédure même est particulière. Je ne sais pas si vous avez réfléchi sur la procédure. La procédure, c'est quand on le lit, c'est impressionnant. Mais même pendant le jugement même, il y avait encore le temps. Parce que ça a pris du temps, cette histoire. Tout ce temps-là, c'était la grâce de Dieu. C'était la grâce de Dieu. C'était un moment où Achan, comme sa famille, pouvait rentrer en eux-mêmes. C'était un moment où il pouvait se dire, mais oui, tant que je reste là, avec ça, il va y avoir des problèmes. On va avoir un problème. Et ils ont attendu jusqu'au bout. Comment on peut réagir à ce point, sachant qu'on sait... Ils savent ce par quoi ils sont passés. Ils ont vu Achan, il a vu le Jourdain s'arrêter. Il a vu des choses aussi extraordinaires. Il savait que Dieu, on ne pouvait rien lui cacher. Et pourtant, il a une attitude très surprenante, vous ne croyez pas? On lui annonce un jugement, on lui annonce qu'il va périr, tout simplement. Et il fait rien, le gars. Il fait rien. Et en plus que d'Achan, il y a toute sa famille. Parce que vous savez... Ils étaient au courant. C'était planqué au milieu de la tente. Toute la famille était de mèche avec Achan. Pourquoi Dieu a fait périr la famille? Quand on le lit d'un première vue comme ça, on se dit, mais c'est pas juste. Pourquoi les filles? Pourquoi? Mais ils étaient tous de mèche. Ils ont planqué ça dans la tente. Achan, il l'a fait. Les autres l'ont vu. Parce que chacun, les tentes étaient petites. C'était pas... Et puis... À la limite, ils auraient vécu dans une villa, ils auraient planqué au fond d'un placard sans que personne ne le sache, d'accord. Mais vous avez vu les tentes des Bédouins commencer? Il y a une pièce, et puis c'est tout. Et la pièce, c'est la pièce de vie, c'est la pièce où on mange, c'est la pièce où on dort, c'est la pièce où on fait tout. Il n'y a qu'une seule pièce dans une tente. Donc quand il l'a cachée, eh bien, il l'a cachée avec la connaissance de tous. Et quand il l'a cachée, il a voulu certainement bien le cacher. Donc pour bien le cacher... Peut-être même qu'il a fait en sorte que la marmite et tout ça était par-dessus. Enfin, je me fais des films, mais il a voulu bien le cacher. Mais sa famille était peut-être complice, était probablement complice. J'en arrive à cette question. Est-ce qu'il y a des choses dans ton cœur, dans ta vie, puisque j'en arrive sur cette histoire, parce qu'on est tous dans la même histoire. Est-ce que tu caches quelque chose à Dieu? Est-ce que tu crois même que Dieu ne voit pas quelque chose dans ton cœur? Il y a peut-être un autre aspect qu'on peut voir, c'est peut-être que tu te persuades que tu es juste, en fait, mais tu ne l'es pas. Et j'aimerais quand même qu'on prenne cette parabole ensemble, parce que c'est important. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 9, il est écrit ceci. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. C'était leur problème. Elles ne faisaient aucun cas des autres, d'accord, c'est leur problème à elles. Mais on peut se persuader d'être juste et avoir d'autres problèmes. Le problème étant pas que ils se persuadaient d'être justes, ils ne voyaient pas eux-mêmes, ils se mentaient à eux-mêmes sur quelque chose, sur leur propre situation, ils se persuadaient qu'ils étaient justes, mais ce n'était pas le cas. Ils se mentaient à eux-mêmes, ils essayaient de planquer quelque chose. Et voilà ce qu'on voit. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Il ne regardait pas au ciel, il regardait aux autres pendant sa prière. C'est assez bizarre. « Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc on voit quelque chose de très clair, c'est que celui qui se persuade qu'il est juste n'est pas justifié devant Dieu. Lequel est justifié ? Celui qui est honnête sur sa situation, celui qui est sincère sur sa situation, celui qui avoue ses transgressions. Et David a écrit ces choses. Dans le psaume 32 et au verset 5, on en a parlé juste avant. David a écrit « Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit « Je reconnaîtrai devant l'Éternel ». Les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Voilà le mécanisme qui vient de Dieu. Celui qui avoue ses transgressions, celui qui ouvre son cœur. Vous savez, j'ai un défaut quand je fais venir du monde des fois chez moi, c'est que quand j'ouvre ma maison, moi j'ouvre toute ma maison. Et j'ai pas peur des fois de montrer certaines pièces quand il y a du bazar. Et c'est pas que je cherche à montrer ce que j'ai, mais c'est que quand j'ouvre ma maison, j'ouvre ma maison. Humainement parlant, c'est peut-être un défaut, je vous l'accorde. Mais il y a quelque chose qu'il faut retenir de ça. On l'a chanté tout à l'heure. Quand je t'ouvre mon cœur. Et quand on ouvre notre cœur au Seigneur, c'est ne rien lui cacher. Absolument rien. Et quand on ouvre notre cœur au Seigneur, alors la bénédiction est là. Alors la grâce est là. Parce que quand on ouvre notre cœur sincèrement, on reconnaît qu'on est pécheur. On montre notre cœur au Seigneur tel qu'il est, avec ses péchés. On le montre au Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, vois ce qu'il n'est pas bien beau. Seigneur, fais-moi grâce. Voilà le réflexe qu'a fait David, alors qu'il avait fait bien plus grave que cacher un petit manteau dans la terre. Et pourtant, David, il a été justifié. David, il a commis l'adultère, il a tué son ami, ensuite il a menti à tout son peuple en recueillant Bathsheba, en faisant croire qu'il avait la bonté de la recevoir. Et c'est ce que tous les gens ils ont dû croire, ils n'y ont vu que du feu, ils se sont dit « il est génial ce David, son meilleur ami est mort au combat, il prend sa femme ». Quelle classe, quelle classe. C'était pas ça du tout, hein. C'était pas ça du tout. Il a menti à tout son peuple. Il a vécu dans le mensonge pendant plus d'un an. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant cette année ? Je sais pas. La Bible ne nous le dit pas. Mais ça ne devait pas être joyeux parce que son cœur était pas bon. Et David a été pardonné. David est l'homme selon le cœur de Dieu. David, malgré ses transgressions, il a su voir en Dieu la miséricorde. Il a su voir en Dieu celui qui pouvait lui faire grâce, et qui même qui voulait lui faire grâce. David comprenait ce que Dieu attendait de lui. Et le jour où Nathan le prophète est venu lui voir pour lui ouvrir les yeux, il a compris son état. Il n'a pas cherché à se cacher. Il n'a pas cherché à dissimuler son péché. Il n'a pas cherché à tuer Nathan pour continuer à faire le beau devant son peuple. Non, il s'est humilié devant Dieu. Il a ouvert son cœur. Il a pleuré sur son sort, sur qui il était vraiment. Mais Dieu l'a déchargé du poids de sa faute. Et ce soir, c'est la même chose. Si on en revient à notre famille du temps de Josué, il en est de la même chose. La Bible dit quoi ? Que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà par quel moyen on peut être sauvé. Voilà par quel moyen ce que je cache, si je le montre au Seigneur, je peux en être déchargé. Parce que si j'ouvre mon cœur pour le montrer au Seigneur, c'est pour qu'il puisse prendre le péché. J'ouvre mon cœur. Mais si je le garde, il ne le prendra pas parce que je le cache. Et il restera. Et à cause de ce qui restait, je resterai condamné. Ouvre ton cœur, montre-lui ton péché, qu'il puisse le prendre. Dans Job, il est écrit, la rédemption, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de payer la rançon. L'homme a une dette envers Dieu. À cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous cachons tous des choses. Certaines choses, on peut les cacher, et d'autres, il ne faut pas les cacher. En ce qui concerne le péché, il vaut mieux les montrer au Seigneur. La rançon pour payer la dette. Jésus est venu. Lui, marcher sur la terre sans commettre de péché. Il a été la victime expiatoire. Il a été celui qui est mort pour que nous puissions être pardonnés par Dieu. Parce que si David a été pardonné, c'est parce que Jésus est mort sur la croix. Parce que la mort de Jésus sur la croix, le temps n'a pas de prise sur elle. C'est un acte qui a été accompli une fois pour toutes. C'est un acte qui est éternel, qui n'a pas de début ni de fin. Et tous les hommes qui viennent à Dieu, comptant sur sa grâce et sa miséricorde, et qui a ce cœur qui ouvre pour que Dieu puisse voir le péché, il est pardonné. De la même manière, qu'il soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, c'est pareil. Et pour nous ce soir, c'est encore la même chose. Le temps de la grâce est encore là. Et le Seigneur veut nous sauver. Dans Job, il est écrit ceci. « Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui. Et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé la rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. » Voilà le bienfait de celui qui a la faute pardonnée. Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je dirais même de tous les hommes. Mais pourquoi c'est écrit plusieurs ? Parce qu'il n'y en a que quelques-uns qui croient. Et ma prière ce soir, c'est que vous fassiez partie de ces quelques-uns, de ces plusieurs qui auront compris le sens de ce que Jésus a payé. L'apôtre Paul écrit aux Romains, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » C'est aujourd'hui, tant que le temps de la grâce est encore là. Acan et sa famille, ils ont eu du temps pour réfléchir à leur situation. Et le temps qu'ils ont eu à disposition pour réfléchir, se repentir, pour demander, aller voir Josué, il dirait, c'est moi qui ai planté, tiens, je te le donne. L'interdit était ôté, c'était fini. Et ils ne l'ont pas fait. Et ils ont attendu que le temps passe. Mais que nous raconte cette histoire ? C'est qu'à un moment donné, le jugement a eu lieu. Le jugement a eu lieu. On ne peut pas cacher indéfiniment les choses à Dieu. Ce qui restera caché de notre vivant, sera dévoilé une fois qu'on sera mort, devant une grande foule. La grâce, c'est maintenant qu'il faut la saisir, de notre vivant. Parce qu'une fois la mort passée, on ne pourra plus revenir en arrière. Ce sera terminé. Et regardez avec moi quand même, dans Josué chapitre 7 au verset 16, c'est quand même impressionnant la manière dont Dieu s'y prend. Vous savez comment Dieu désignait, c'était une procédure, ou pour simplifier, je vais dire que c'était un jet de dés, on va dire. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui? Oui, non. Alors on passe au suivant. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Oui, non. Alors on passe au suivant. Voilà comment ça s'est passé. Regardez quand même, on va le relire. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il y a 12 tribus. Je ne sais pas dans quel ordre ils sont passés, mais déjà, le temps de sélectionner Juda. Ensuite, il fit approcher les familles de Juda. Combien il y avait de familles dans Juda? À chaque fois qu'il demandait au souverain sacrificateur si c'était celle-là ou une autre, ou pas celle-là, c'était ça la question. Est-ce que c'est cette famille? Oui, non. Est-ce que c'est cette famille? Oui, non. Est-ce que c'est cette famille? Oui, non. Et toutes les familles ont défilé jusqu'à trouver la bonne. Vous ne croyez pas qu'à Caen, alors que c'était en train de se dérouler, ils voyaient « Ah, c'est ma tribu qui a été sélectionnée ». On passe aux familles. C'est ma famille qui est choisie. À chaque fois que le sort tombait, à Caen, ils pouvaient dire « Mais ça va me tomber dessus ». Vous avez vu ça? Ils passent les familles. La famille de Zérakh fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérakh par maison. Bien sûr, dans une famille, à cette époque, il y avait beaucoup de personnes. Et là, pareil, est-ce que c'est cette maison? Oui, non. Est-ce que c'est cette maison? Oui, non. Ça a pris du temps, quand même. Et encore là, à ce moment-là, il pouvait aller voir, c'est moi, il pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté sur sa position. Vous voyez comment on peut être endurci, comment le péché peut nous endurcir, comment le fait de se cacher, de vouloir entendre peut-être des prédications, venir à des réunions et ne pas régler le problème, voilà ce qui se passe. À un moment donné, on entend les prédications, ça ne nous fait plus rien. À chaque fois que le sort était désigné, c'était une prédication. Et rien ne se passait. À quand on faisait rien, sa famille ne bronchait pas. Même à la limite, la famille aurait pu dire « Hey, c'est lui !» Ils ne l'ont même pas fait. Les maisons, ensuite, dans la maison, homme par homme. Là encore, ils les pouvaient. Combien ils étaient, je ne sais pas. Il avait encore le temps. Est-ce que vous comprenez la grâce de Dieu? Cette histoire, alors qu'on la lit sans faire attention, nous parle d'une sévérité, mais non. Cette histoire nous parle de la grâce de Dieu. Et ce soir, la grâce est encore là. Mais le problème, c'est qu'un jour, la grâce, elle va s'arrêter. Un jour, si on ne prend pas la bonne décision, on vivra le même sort qu'à Caïn et sa famille. On connaîtra le feu éternel. C'est pas pour rien que la famille d'Acan et tous ses biens ont été brûlés au feu. Parce que ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'enfer, il faut dire le mot. Celui qui continue de cacher sa faute, c'est sa destination. Pourquoi je vous dis ceci ce soir? C'est parce que j'aimerais vous avertir. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et même s'il ne revient pas bientôt, ta vie, tu ne la maîtrises pas. Elle n'est pas dans ta main. Tu ne sais pas quel est le jour de ton départ. Et arrête de cacher à Dieu ce que tu caches. Parce que d'une part, ce n'est pas caché. Et d'autre part, tu as beaucoup plus à perdre qu'à gagner à vouloir cacher. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. À Caen, il a entendu un certain nombre de prédications. À chaque fois qu'une tribu était désignée, à chaque fois qu'une famille était désignée, à chaque fois qu'une maison était désignée, à chaque fois qu'un homme était désigné, il n'a pas bronché. Il a entendu des prédications, il a entendu des appels répétés du Seigneur à lui dire « Mais sors de ta léthargie, sors de ton sommeil, réveille-toi, viens à moi et demande-moi pardon, avoue tes transgressions. » Et Acan était tellement endurci qu'il n'a rien fait. Est-ce que quelqu'un ce soir voudrait faire l'inverse de cet homme? Est-ce que quelqu'un ce soir voudrait avouer ses transgressions à Dieu? Est-ce que quelqu'un ce soir voudrait devant Dieu, avouer ses transgressions. Vous savez, ce soir, on n'est pas nombreux et on est tous recueillis. Personne ne regarde. C'est devant Dieu que ça se passe. C'est entre toi et Dieu que ça se passe. Dieu t'attend ce soir. Il veut te faire du bien. La question, c'est est-ce que tu veux être béni par le Seigneur ou est-ce que tu veux rester dans ta situation? Est-ce que tu veux continuer à cacher ton péché? Est-ce que tu veux continuer à cacher à Dieu ce que tu veux garder? D'ailleurs, ce que tu veux garder ne te fera pas du bien. Ou est-ce que ce soir, cette prédication va te laisser convaincre? Alors, si tu veux que le Seigneur vienne te délivrer, si tu veux que le Seigneur vienne te pardonner une fois pour toutes de ce que tu caches, de ce que tu lui caches, lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place et je vais prier. Nous allons prier tous ensemble, avec les anciens. J'aimerais qu'on reste courbé, s'il vous plaît, qu'on ne regarde pas ce qui se passe. Seigneur Jésus, Seigneur, je veux te rendre grâce pour cette personne qui s'est levée. Seigneur, je te demande ta grâce. Je te demande ta grâce. Par ton sang, Seigneur, il y a le pardon, il y a la délivrance. Par ton sang, Seigneur, nous avons la pleine délivrance. Nous avons le nouveau départ. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour que ta délivrance soit pleine et entière sur la vie de cette personne. Je te loue et je te rends grâce de ce que tu nous avertisses. Seigneur, tu nous aimes. Et c'est parce que tu nous aimes que tu nous avertis de la sorte. Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et tes bienfaits. Seigneur Jésus, gloire à toi. Dans le nom de Jésus, amen.